إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما زلنا نقرأ كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى مع شرح فضيلة الشيخ محمد ابن السعيد النرسلان حفظه الله جل جلاله. طيب، فوصلنا إلى باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن مخلد أو مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر قال حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مبقلة له فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا فانطلق حتى أتي دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم ثم أذن لأبي قرة فدخل فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطات فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر فلما خوفته بعمر تركني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا فأيما عبد من أمتي لعنته لعنه أو سببته سبه في غير كنه فأجعلها عليه صلاة. فهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح وقد سلكه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وصححه في صحيح الأدب المفرد. طيب، donc on poursuit inshallah l'explication de l'adab al-mufrad et on est arrivé au chapitre 118 intitulé le fait de sortir au champ de légumes et de porter la chose sur son épaule jusqu'à sa famille, hein, dans un panier d'osier. Taïeb. Donc le hadith numéro 234, il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Ishaq ibn Makhlad nous a rapporté selon Hamad ibn Usama, selon Mis'ar, qui a dit Omar ibn Qays nous a rapporté selon Amr ibn Abi Qurrat al-Kindi, qui a dit, mon père a proposé en mariage sa sœur à Salman, yani Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qui a refusé et a épousé l'esclave affranchi, yani, de Abu Qurra. Donc il a refusé d'épouser sa fille, mais il a épousé son esclave affranchi, que l'on appelait Bukhayra. Bukhayra, Tayyib. Puis, il a été parvenu aux oreilles de Abu Qurra qu'il y a eu un désaccord, un différend, quelque chose, entre les deux compagnons, Hudhayfa ibn al-Yaman et Salman al-Farisi, radiyallahu anhuma. Donc, Abu Qurra, qui était un des proches de Salman, commença à chercher Salman. Et on lui a dit qu'il était donc au champ de légumes. Donc il est parti vers le champ et il a trouvé Salman qui avait sur lui un panier en osier dans lequel donc il y avait des légumes. Et Salman donc avait mis son bâton dans la lance hein, du panier et donc il le portait sur son épaule. Donc Abu Qurra, lorsqu'il a vu Salman, il l'a appelé par sa kunya. Ya Aba Abdillah, Abu Abdillah. Tayyib, il lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a eu entre toi et Hudhayfa? Et Salman de lui répondre par le verset d'Allah, Jalla wa Ala, de la sourate Al-Isra, verset 11, dans le sens du verset, et certes l'homme a été créé d'un naturel hâtif. Tayyib. Puis tous deux sont partis et sont arrivés donc à la maison de Salman. Salman entra dans sa maison en disant Assalamu alaikum, donc en saluant sa famille. Ensuite, il autorisa à Abu Qurra de rentrer et il entra. Et il vit donc d'abord Namat Moudou, donc il y a des tapis très fins posés hein, sur la porte et à sa tête, il y avait des morceaux d'argile, ainsi que et il vit aussi donc en arrivant des tissus que l'on met en général sur les montures, les chameaux, les chevaux, les ânes, etc. Voyez. Salman lui dit alors, assieds-toi sur le lit, hein, ou la couche de ton esclave affranchi qu'il a faite elle-même. D'accord? Sur le firage, yani sur l'endroit où elle se met. Et ce firage, ce lit ou ce tissu sur lequel elle s'asseyait, c'est elle qui l'avait fait elle-même. Puis il commença donc à parler au sujet de la question qu'il lui avait posée. Il dit, Hudhayfa, transmettez aux gens des choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses moments de colère à certaines personnes. Donc on m'amena et on m'interrogea sur celle-là. Et je dis alors, Hudhayfa est plus savant de ce qu'il dit, mais je déteste qu'il y ait de l'animosité entre les gens. On fit amener Hudhayfa et on lui dit, Salman n'a ni accrédité ni démenti ce que tu dis. Alors, Hudhayfa est parti voir Salman et lui a dit, Ya Salman, fils de Ummi Salman. Je répondis alors, Ya Hudhayfa, fils de Ummi Hudhayfa. Soit tu arrêtes de transmettre ce genre de hadith, ce genre de parole, ou soit j'écrirai à ton sujet à Omar. Donc Omar qui était donc le calife à l'époque. De lorsque je lui fais cette menace, je lui fais peur, hein, par rapport à Omar, eh bien, il m'a laissé. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, je fais partie des descendants de Adam, donc toute personne ou tout serviteur de ma communauté que j'aurais maudit ou que j'aurais injurié injustement alors qu'il ne méritait pas cela, eh bien, je demande à Allah, yani, j'en fais pour le jour de la résurrection une rahma pour lui. D'accord? Yani, il demande à Allah, jalla wa ala, autrement dit, de transformer cette parole, cette injure, cette malédiction en rahma pour la personne qui l'aurait insulté ou injurié ou maudite de manière injuste, taïeb, ou alors que la personne ne méritait pas cela. Taïeb. Donc le hadith rapporté par l'imam Ahmed Abu Daoud, et c'est un hadith qui est authentique, rapporté également par l'imam Al-Albani rahimahullah dans Silsilati Sahiha, et également dans Sahih Al-Adab Al-Mufrad. فمن رجاله مسعر وهو ابن كدام وعمر بن قيس وهو ابن الماصر وهو ثقة وعمر ابن أبي قرة الكندي وهو ليس به بأس. Donc parmi les transmetteurs du hadith, on a Mis'ar qui est ibn Kidam, on a Amr ibn Qais ibn al-Masir qui est quelqu'un de fiable, on a aussi Amr ibn Abi Qurra al-Kindi sur lequel il n'y a aucun mal à prendre ce hadith. طيب فمعاني الكلمات معاني الكلمات اولا قال بلغ ابا قره انه كان بين حذيفه وسلمان شيء يعني شيء كان سمع سلمان ان حذيفه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الرجال او القائل او القبائل عفوا وفهم سلمان أن نشر أمثال هذه الأقوال ليس فيه مصلحة دينية ليس فيه مصلحة دينية وربما ينجر إلى الفساد فكان سلمان يغضب بهذا على حذيفة. Donc lorsqu'il dit ici ابن أبي قرة, il dit il est parvenu à Abu Qurra, yani à son père, qu'il y a eu un désaccord entre Hudhayfa, le Yaman, et Salman, le Farisi. Quelque chose. Donc, si Shay, c'est quoi Shay? C'est quoi ce quelque chose? Eh bien, c'est, pour résumer, le fait que Salman, radiallahu anhu, entendit que Hudhayfa a rapporté des choses, des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'encontre de certaines personnes ou de certaines tribus. Et donc Salman a compris et a su que le fait de propager ce genre de paroles, eh bien, ne comportait pas d'intérêt religieux, pas de profit religieux. Et peut-être même que cela pouvait amener à des troubles, hein, à des troubles, à des tensions entre les gens, entre les tribus. Et donc Salman s'est mis en colère à cause de cela, yani, contre Hudhayfa, radiyallahu anhuma. Taïeb, naam. Puis il dit donc, le Abu Qurra s'est mis à chercher Salman pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Hudhayfa. Et on lui dit qu'il s'est trouvé à, yani, que Salman se trouvait à Al-Mabqala. Yani, Mabqala, qui appartenait donc à Salman. Mabqala, c'est quoi? C'est une terre sur laquelle on cultive les légumes. Donc Salman était parti au champ de légumes. Donc Abu Qurra, lorsqu'il a vu Salman, il a dit O Abu Abdullah. Donc il a appelé par sa kunya, Abu Abdullah. Et lorsqu'il a vu dans le champ de légumes, il a vu qu'il avait. Il était parti là-bas pour ramasser des légumes et les mettre dans un panier en osier. Et donc, il comptait le porter, ce panier, jusqu'à sa maison pour les amener à sa famille. D'ailleurs, le terme al-atiq en arabe, C'est ce qu'il y a entre l'épaule et le cou. D'accord? Donc c'est la partie sur laquelle on peut porter des choses. On appelle ça l'atiq. Voyez? الزبيل الجراب الذي يصنع من الخوص وعروته ما يمسك به أي من ورق النخيل والزبيل بفتح الزاي وكسر الباء مخففا ككريم الزبيل وإذا كسرت الزاي شددت الباء كالسكين أو زيد النون الساكنة مع كسرها. Donc, الزبيل, c'est ça, c'est un panier qui est fait en général en osier ou ici en feuilles de palmier. D'accord? Et el-urwa, c'est quoi el-urwa? C'est l'anse par laquelle nous tenons donc les paniers. Donc on peut dire en arabe az-zabil avec la fatha sur le zay, az-zabil. On peut dire aussi az-zibil. D'accord? Avec une kasra sous le zay et une shadda sous le ba. Az-zibil. On peut même rajouter, d'ailleurs, dans certaines version, un noun après le zay, az-zinbil, az-zinbil. Donc on a plusieurs façons de dire le panier, az-zabil, az-zibil ou az-zinbil. Taïeb. Donc lorsque Abu Qurra a rejoint Salman, ils sont partis donc chez Salman. Faqala Salman, assalamu alaykum, yusallimu ala ahli bayti. Donc lorsque Salman est entré chez lui, il a dit assalamu alaykum en saluant donc les gens de sa maison. Et Qurra, il dit donc, lorsque je suis entré, il a vu quoi? Un namat. Un namat, darbud min al-busut, lahu khamalun raqiq. Namat, c'est, il a vu des tapis, d'accord? Et mais c'est des tapis qui sont très fins, d'accord? Qui ont une texture très fine. Al-labinat, jam'u labina, wa hiya ma yuj'alu bayna min at-tini lil-bina. Donc, al-labinat, c'est quoi? C'est le pluriel de labina. Et c'est ce qui sert à consolider donc l'édifice d'une maison, taïeb, c'est de l'argile, d'accord? C'est fait en argile, et ça sert à consolider et à mettre dans la fondation de la maison ou dans la structure de la maison. والقرماط والقرطات السرج والشيء اليسير كالبرذعة للذوات الحوافر. Et il vit aussi dans la maison de Salman, قرماط, hein, soit des selles de monture ou soit des tissus qu'on met sur les montures pour s'asseoir dessus. D'accord? Donc tout cela nous montre que la maison de Salman était une maison très modeste. Taïeb. Naam. فهذا الحديث فيه من الأدب العالي ما هو جدير برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله تعالى له خلقه وآتاه الله جل وعلا المكارم مجموعة sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, il comporte parmi les comportements nobles qui conviennent bien sûr au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour qui Allah jalla wa ala a parfait son comportement et à qui il a donné donc bien sûr le meilleur des comportements, hein, de manière générale. Taïeb. Faqal, inna Hudhayfa kana yuhadithu bi ashiya kana yaquluha Rasulullah صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام وفي رواية عند أبي داود وهي في الصحيح فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول لغضب للناس من أصحابه ويرضى فيقول من في الرضا للناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال حتى توقي اختلافا وفرقة. Donc il dit ici Salman que Hudhayfa radiallahu anhu rapportait donc des choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses moments de colère contre des gens. D'accord? Dans une autre version rapportée par Abu Daoud qui est dans son Sahih également, il dit, Salman a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère et disait, à cause de sa colère pour certaines personnes, hein, donc il dit des choses lorsqu'il était en colère sur certaines personnes parmi ses compagnons, et également, bien sûr, il disait
des choses lorsqu'il était satisfait de certaines personnes, il le disait. Donc il a dit, Salman à Hudhayfa, ne vas pas-tu arrêter de dire ces choses-là qui susciteraient chez des gens l'amour pour d'autres personnes, mais aussi de la haine ou de l'animosité pour d'autres personnes. Et cela donc amènera et suscitera encore une fois des divergences et des divisions au sein des musulmans. طيب نعم فبأشياء قوله بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام بأن لعن أحدا أو سبه وقال ما لا خير فيه من الأقوال التي تكون باعثا للفتن في الناس من قبيلة أو رحط. Donc en gros, il dit que Hudhayfa radiallahu anhu a rapporté certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui des fois était en colère et maudissait un tel ou injuriait un tel. Paroles ou des paroles ou des choses dans lesquelles il n'y a pas de bien de les rapporter. Il n'y a pas de bien dans le fait de les rapporter. Hein? Paroles dans lesquelles ou paroles qui pourraient susciter des troubles et des dissensions entre les gens ou entre les tribus ou entre les groupes, les clans, hein, et ainsi de suite.
فَأُوتَ فَأُسَلُ عَنْهَا أي عما حدث به حذيفة مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. ما الذي حمل سلمان على اتخاذ هذا الموقف مما يرويه حذيفة؟
Donc, Salman, pardon, il dit, on m'amena et on me demanda, taïb, sur ce qu'avait dit Hudhayfa, ce qu'avait rapporté Hudhayfa, par rapport à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses colères à certaines personnes. Il lui dit, Salman, donc à Hudhayfa, soit tu arrêtes, soit j'écrirai à ton encontre, à Omar. Donc, qu'est-ce qui a poussé Salman, donc, à prendre cette position par rapport à ce qu'a rapporté Hudhayfa? قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنه فأجعلها عليه صلاة أي في غير كنه كنه الأمر حقيقته أي لا يستحق اللعنة ولا سب في غير كنه قال ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال قبل من ولد آدم أنا فأجعلها عليه صلاة أي رحمة. Donc la raison, c'est que le Salman a entendu un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Je fais partie des enfants de Adam. Donc toute personne que j'aurai dans ma communauté, que j'aurai maudite ou injuriée, mais une raille kunhi, alors qu'il ne le méritait pas, qu'il ne méritait ni la malédiction, ni l'injure, ni le na'am, eh bien, j'en ferai pour lui, yom al-qiyama, une rahma. » Et je demande à Allah tabarak wa ta'ala qu'il fasse de ces invocations-là contre elle une rahma, au contraire. Hein? Une dua en sa faveur. Voyez? Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que ce soit bien sûr un prophète, un messager, ça reste un être humain qui peut se mettre en colère. Voyez? Naam.
Ma yukhadhu min al-hadith بيان كثير من المناقب للصحابة فسلمان رضي الله عنه لم يرضى بإظهار ما صدر في شأن بعض الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا ونادرا بسبب الإخلال بالتعظيم الواجب في شأن الصحابة لما لهم من الصحابة ولذلك يقول أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دل بنفسه على ما ينبغي أن يقال وما يعمل به في مثل هذه الحال فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة الحديث.
Donc on tire de ce hadith trois choses. La première chose, ici l'exposé de beaucoup de qualités et de mérites qu'il y avait donc chez les compagnons. Salman ici al-Farisi رضي الله عنه donc n'a pas accepté que Hudhayfa yani, transmette ce qui a été ou certains propos
qui ont été dites à l'encontre de certains compagnons de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de manière quand même rare ou assez rare. Ahyanan wa nadiran. Tayyib. Pourquoi? Eh bien, à cause du fait que cela peut susciter un manquement par rapport au respect que l'on doit avoir envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers la valeur et le degré qu'Allah jalla wa ala leur a donné par rapport à la suhba, par rapport justement au fait que ces gens-là, ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la raison pour laquelle il a dit à Hudhayfa, il a dit soit n'arrêteras-tu pas de transmettre ce genre de paroles qui suscitera ou qui suscite au sein des gens l'amour pour certains, mais aussi l'animosité pour d'autres. Yani, ça va faire des clans, ça va diviser les gens. D'accord? Ça va diviser les musulmans. Taïeb, jusqu'à ce que cela provoque la divergence, la dissension, ainsi que la division. Donc le prophète, en plus, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a indiqué ce qu'il convient de dire. D'accord? Et ce qu'il convient de mettre en pratique dans ce genre de cas, eh bien, c'est sa parole. Toute personne de ma communauté que j'aurais maudite ou que j'aurais insultée ou injuriée injustement, j'en ferai au Yawm al-Qiyama une source de rahma. Une source de rahma, yani, de pardon, de clémence de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la position, c'est la parole que l'on doit rapporter du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de certains sahaba ou de certaines personnes. Taïeb. Donc on voit ici la compréhension et la bonne compréhension de Salman al-Farisi à ce sujet. Dalilun ala anna sahabat al-kiram laysu ma'soumin faqad yahsulu min ba'dihim ala ba'd ma yubghidhu aw yukhalifu lakinnahu la yajurruhum ila al-qati'a wa innama kullun من المتخاصمين يبذل السلام ويكون صافي القلب لصاحبه. Deuxièmement, on a dans ce hadith la preuve que les compagnons, les nobles compagnons radiallahu anhum, ne sont pas infaillibles. Ils peuvent faire des erreurs. Il se peut qu'il y ait entre eux des choses qui font que il y ait des disputes. Hein, des disputes et des différends entre eux. Mais, malgré ces disputes, malgré ces différends, cela ne suscite pas de boycott, de qati'a, de rupture des liens fraternels en islam. D'ailleurs, comme on pourrait le voir à notre époque, les musulmans, yani, ont des différends, bien sûr. Des différents en plus qui ne sont pas religieux, des différents qui sont liés à la dunya et à la vie à la vie sur terre, et malgré ça, tu les vois, ils rompent les liens de parenté, ils rompent les liens fraternels à cause de sujets qui sont minimes. Mais on voit qu'ici que malgré ça, les sahaba, malgré leurs différents, et bien continuer bien sûr à maintenir leurs liens. Non, il continue à se passer le salam et à avoir un cœur, yani un cœur sain et un cœur clair et pur, yani à l'encontre de leurs compagnons. Thalithan al-ruju'u ila wali al-amr 'inda al-ikhtilaf fi al-masa'il wal-qadaya wa yutlabu minhu al-fasl bayn al-mutakhasimin aw al-mutakhasimin fi al-qadiyya. Kama qala Salman li Abi Hudhayfa. نعم أو لحذيفة لأكتبن فيك إلى عمارة نعم troisièmement le fait de retourner aux dirigeants lors des divergences lors des situations yani où il y a des désaccords retourner et amener l'affaire au dirigeant et lui demander donc de trancher entre les différents protagonistes qui sont en désaccord
D'accord? Dans l'affaire, comme l'a dit Salman ici, à Hudhayfa, il a dit soit tu arrêtes, soit j'écrirai à ton sujet à Omar, yani Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Non. طيب ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا فخرجنا فكنت أنا وأبي ابن كعب في مؤخر الناس فهاجت سحابة فقال أبي اللهم اصرف عنا آذاها فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا قلت إنه دعا الله جل وعلا أن يصرف عنا آذاها فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم فالحديث ضعيف فيه عنعنة الأعماش وعنعنة حبيب ابن أبي ثابت وكلاهما مدلس وأما يحيى ابن عيسى ففيه لين وقد أخرج الحديث اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة وابن عساكر في التاريخ وهذا الحديث لا يثبت فهذا الحديث لا يثبت اليوم بصو حديث سويفون الحديث 235 يدي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ابن أبي شيبة nous a rapporté et a dit يحيى بن عيسى nous a rapporté selon الأعمش selon حبيب selon سعيد بن جبير selon ابن عباس رضي الله عنهما qui a dit Omar, radiallahu anhu, a dit « Sortez avec nous vers la terre de notre peuple. » Nous sortîmes alors et j'étais avec Ubay ibn Ka'b à l'arrière, yani à l'arrière de, du convoi où yani nous étions les derniers du groupe, voyez, durant le voyage ou durant le trajet. « Fahajat sahaba » les nuages commencèrent à s'assombrir. Et le vent commence à souffler. Donc Ubay, il a invoqué Allah, il a dit Allahumma, ya Allah, éloigne de nous le mal de ces nuages ou de ces vents. Puis nous les rejoignîmes et nous vîmes que leurs affaires et leurs montures étaient trempées, alors qu'eux, ils avaient rien, ils étaient secs. Et lorsque les gens les virent, ils leur ont demandé, n'avaient pas été touchés par ce qui nous a touchés. Et il dit ici, donc le rapporteur, c'est-à-dire Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, certes, il a invoqué Allah Jalla wa'ala pour qu'il éloigne de nous yani le mal de la pluie, de la tempête et des nuages. En parlant de Ubay ibn Ka'b. Alors Omar répondit, pourquoi n'avez-vous pas invoqué pour nous avec vous? Au lieu de dire, Ya Allah, éloigne de nous, yani sans mal, vous auriez dû nous mettre également dans l'invocation avec vous. Taïeb. Quoi qu'il en soit, le hadith il est faible. Il comporte donc certains rapporteurs comme Amash ou Habib ibn Abi Thabit, qui font preuve de tadlis dans leur transmission de hadith, et aussi Yahya ibn Isa, qui n'est pas quelqu'un de très fort en termes de transmission de hadith. Donc, hadith rapporté également par l'imam Al-Lalaka'i, ainsi qu'Ibn Asakir, mais, quoi qu'il en soit, le hadith, il n'est pas authentique. Voyez ? Fahajat sahaba ay taghayyamat wa kathura rihuha. Donc, le terme hajat sahaba, c'est-à-dire que les nuages commencèrent à s'assombrir et le vent a soufflé fort. فَلَحِقْنَاهُمْ يَعْنِي وَمَا أَصَابَنَا بَلَلْ وَقَدْ ابْتَلَّتْ رِحَالُهُمْ. Donc à la fin ils disent فَلَحِقْنَاهُمْ, c'est-à-dire on les a rejoints, et nous étions pas touchés par la pluie alors qu'eux étaient trempés. طيب. وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مُتَحَابِّينَ مُتَوَاضِعِينَ فِي مَا بَيْنَهُمْ وهذا ما يثبته غير هذا الحديث الضعيف وكانوا يخافون العاصفة من الريح
أن يكون عذابا يصبه الله جل وعلا على الخلق بما قدمت أيديهم. وهذا إنما تعلمه الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح وتغيرت الأحوال دخل بيته ويدعو الله جل وعلا وجلا يخشى أن يكون عذابا، وهو صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم.
Donc pour finir le chapitre, les compagnons رضي الله عنهم s'aimaient les uns les autres et étaient humbles les uns envers les autres. طيب. Et cela donc est affirmé par ce hadith malgré sa faiblesse, donc par d'autres hadiths bien sûr. Les sahaba, ils avaient peur également donc de l'asif, les tempêtes, طيب, les vents qui soufflaient très fort. Ils avaient peur que cela soit un châtiment de la part d'Allah tabarak wa ta'ala sur ces créatures à cause de ce qu'elles ont fait. Hein? Et ça, c'est bien sûr une chose que les sahaba radiallahu anhum ont apprise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager lui-même, lorsque le vent se mettait à souffler très fort et que le temps commençait à changer et à s'assombrir, il rentrait chez lui et il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala car il avait peur que ce soit un châtiment. Bien que le prophète soit le prophète. Malgré son statut et malgré son degré, eh bien, lorsqu'il voyait les nuages se rapprocher, les nuages noirs, le vent, eh bien, il avait peur. Il avait peur que ce soit un châtiment, une punition de la part du Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Tabarakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra jeudi prochain, bi'idhnillah. والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك